Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Bon. Pascal Cévé, je ne sais pas pour toi, mais moi, ma journée vient de prendre un tournant que...
Ouf!
Ouais, regarde, le dit en même temps. Ouf!
C'est touchant.
Oh, Seigneur. Et c'est le cas de nos auditeurs également. Merci pour vos beaux mots en passant. 418-971-1021.
C'est surtout ça. Merci. Ah, de. Oui. Honnêtement, je suis particulièrement touchée de ceux qui nous écoutent parce que c'est stéréotypé, c'est difficile, c'est de la misère humaine, c'est des parcours qui sont totalement différents des nôtres, mais qui nous rejoignent tous à quelque part, étrangement, mais réalistement. Puis la façon dont vous avez reçu et pris le temps d'écouter le discours d'Alexandra,
incroyable,
de nous écrire. On a plein de nouveaux textos, des gens qui n'avaient jamais pris le temps.
T'as raison.
Ça ouvre la porte sur à quel point on peut aller loin avec vous, qu'on peut se pencher sur des dossiers peut-être un petit peu plus sensibles.
Clairement.
Ça, c'est un méchant beau cadeau que vous faites à tout le monde, les auditeurs.
Oui, et ça fait énormément de bien avec les discours qu'on a entendus dans les derniers 4-5 jours à propos de l'itinérance et que c'était facile de s'en sortir. Puis voyons donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font là? Oh, que ça fait du bien, votre dose d'amour, amis auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être là avec nous. On s'en va rejoindre de ce pas un chroniqueur qu'on adore, Lambert Drainville, chroniqueur politique et excellent vulgarisateur. Lambert, comment vas-tu?
Ça va bien, très touché, comme vos auditeurs du segment qu'on vient d'entendre, là, Madame Alexandra. On lui envoie une grosse dose d'amour et nos meilleures énergies pour la suite.
Vraiment, courage exceptionnel.
Ouais.
Il n'y a pas de doute. Lambert, on revient sur le plancher des vaches en politique. Il y a une guerre ouverte entre les médecins et le gouvernement du Québec. Pendant le témoignage d'Alexandra, c'est sorti. Le gouvernement refuse d'aller en arbitrage. Peux-tu nous expliquer, là, c'est quoi les tenants et aboutissants là, de cette guerre ouverte-là là, entre la CAQ et nos médecins, tant spécialistes comme praticiens?
Oui, c'est ça. Ben, écoute, je vais dresser un portrait un petit peu complet de la situation. Je vais parler que de ça aujourd'hui pour que les gens qui sont à l'écoute puissent se faire une tête. Et moi, je vais essayer de garder l'intégrale de tout ça, mettre ça sur mes médias sociaux pour que les gens qui s'y perdent un peu. Là, parce que entre toi et moi, comme c'est souvent le cas avec les négociations syndicales, il y a la partie gouvernementale, il y a la partie syndicale qui s'envoie la balle.
Puis là, ils disent quelque chose et son contraire. On comprend plus rien.
Ouais. C'est comme une bataille de l'opinion publique. Nous autres, on est comme des spectateurs d'une game de tennis. Puis là, on regarde ça de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Puis on ne sait pas trop qui c'est qui dit vrai, qui c'est qui dit pas vrai. Moi, je suis pas compliqué, là. Je sais pas où cette hostifie de table-là de négociation. Mais je t'aveugle d'aller chercher les deux bords, de le gouvernement puis les syndicats, des asseoir, puis de les laisser dans la pièce jusqu'à temps que ce soit réglé, comme maman faisait quand j'étais jeune, sans me laisser me lever de table avant que j'aie fini mes petits légumes, là, tu sais. Sérieusement, c'est comme, tu sais, là, il y en a un bord, il y a un bord qui dit là, ils sont pas assez à table. Il y a d'autres qui sont pas assez à table.
Là, finalement, qu'est-ce que les médecins veulent, puis qu'est-ce que le gouvernement veut? Explique-nous ça.
Ben c'est ça. On va rentrer dans l'essentiel. Le projet de loi 106, c'est ça qui est le nœud du problème. Qu'est-ce que ça change en gros, ce projet de loi-là? Ben, un des gros changements, c'est une prise en charge collective sur un territoire. Fait que mettons que tu as un territoire, tu sais, présentement, les médecins sont affiliés à une liste de patients qui leur est attribuée. Ben là, maintenant, sur un territoire donné, par exemple en Abitibi, ben, si tu as 10 médecins de famille en Abitibi, ben, c'est l'ensemble de ces 10 médecins-là qui seraient responsables de toute la population desservie en Abitibi, au lieu que ce soit médecin par médecin. Ça, c'est le premier gros changement. Deuxième changement qui est vraiment le nœud du problème d'où on en est aujourd'hui, c'est la nouvelle façon de rémunérer les médecins. C'est ça que le gouvernement veut mettre en place. Donc, d'un côté, on introduit ce qu'on appelle la capitation, fait que les médecins vont recevoir un montant fixe. Ce sera plus simplement au nombre d'actes médicaux, de chirurgie, de rendez-vous qui sont pris, mais maintenant, il va y avoir un facteur de vulnérabilité qui va entrer en ligne de compte, qui va changer la façon dont les médecins sont payés. Et il y a aussi une partie de leur rémunération qui va être liés à des objectifs. Par exemple, réduire les délais d'attente. Au début, quand le projet de loi a été déposé, c'était 25 % de la rémunération, donc de tout ce que les médecins gagnent, qui était lié à ces objectifs-là. Et le ministre a mis de l'eau dans son vin, a fait descendre ça à désormais 15 % de la rémunération qui est liée aux indicateurs de performance. Donc, du côté du gouvernement, on dit On tient mordicus au projet de loi 106. On dit que ça fait 50 ans que le gouvernement essaie de changer la façon dont les médecins sont payés au Québec et que personne n'y est parvenu. Eux autres, le premier ministre, le ministre de la Santé, M. Dubé, disent qu'ils ne reculeront pas. Dans les derniers jours, le gouvernement, comme je disais, a mis de l'eau dans son vin, a fait passer d'abord l'aspect de la rémunération qui est lié aux indicateurs de performance de 25 à 15 %, comme je disais. Ça, concrètement, ce que ça veut dire, là, pour un médecin qui ne va pas atteindre aucune des cibles qui lui sont demandées, il perdrait un maximum de 9 % de sa rémunération. Donc, si on regarde le concret de ce que ça va changer, tout ça, là, un médecin qui atteindrait zéro, comme dans Ouellet, là, les cibles, il perdrait un maximum de 9 % de sa rémunération. Et après ça, moi, je dresse un portrait de la situation, puis les gens se font leur propre tête sur la situation, mais moi, je dresse les faits.
Les médecins sont fâchés de ça. Lambert, c'est quoi les demandes concrètes des médecins? Tu viens de bien nous expliquer les demandes du gouvernement.
Bien, du côté des syndicats, puis je tiens à dire, c'est du côté des syndicats de médecins. C'est important de le dire. C'est pas nécessairement tous les médecins. Bien, eux autres, il n'est pas question de lier la rémunération à la performance. C'est impensable que ça passe par un projet de loi. Évidemment, le gouvernement, en passant par un projet de loi, au lieu de passer par la table des négociations, le pousse un peu dans la gorge des médecins. Et les médecins disent, bien, nous, on ne négociera pas avec un gun sur la tempe. On fait ça à la table des négociations ou bien on va mettre en place des moyens de pression. Et c'est là qu'on a vu les moyens de pression s'accumuler dans les dernières semaines. On refuse de participer à la mise en place du dossier santé numérique. Donc, c'est un genre de projet informatique qui est en train d'être mis en place.
Là, on s'est retiré de l'enseignement.
On se retire de l'enseignement. Donc, les médecins de famille se retirent de l'enseignement. Les médecins spécialistes le faisaient déjà depuis la mi-septembre. La supervision des stages, même chose. Donc, les médecins ne superviseront plus les stages des jeunes médecins, ce qui va occasionner, évidemment, des retards dans leur parcours pour devenir médecin. Et donc, si tu retardes les stages, bien, ça veut dire que tu retardes également le moment où ces médecins-là vont rentrer pour faire leur résidence. Et quand les médecins sont résidents, bien, ils traitent des patients. T'sais, ils peuvent traiter jusqu'à des dizaines de patients par jour. Alors, ces retards-là, oui, vont avoir un impact. Présentement, un impact d'abord et avant tout sur les jeunes médecins qui ne pourront pas graduer et amorcer leur résidence, mais dans quelques mois, dans un bout de temps, ça va avoir un impact sur les patients parce que les médecins résidents ne verront plus de patients. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux autres, c'est pas compliqué, ils veulent le retrait du projet de loi 106. Comme je disais, que tout se fasse à la table des négociations et au final, que ce soit un arbitre qui tranche. Ils regardent ce qui s'est fait en Ontario, en Colombie-Britannique récemment. Il y a un arbitre qui a été mis en place pour couper la poire en deux. Ce que ça a donné, c'est 17 % et 20 % d'augmentation sur 4 ans. Si on prend, mettons, ce 20 %-là de la Colombie-Britannique, puis on le met, on assume que, par exemple, ce serait le cas au Québec, l'enveloppe pour la rémunération des médecins totale au Québec, c'est 9 milliards. Donc, combien ça coûterait 20 % de l'enveloppe de 9 milliards au Québec, si jamais il y avait un arbitrage, bien, ça coûterait 1,8 milliard. Et qui paierait pour ça? Évidemment, c'est toujours les mêmes personnes. Ce sont les Québécois. Et donc, le ministre l'a exclu ce matin. Il n'y aura pas d'arbitrage. La question que ça pose, est-ce que c'est justifié de la part du gouvernement, considérant le nombre de milliards qui sont en jeu? Je viens de parler de 1,8 milliard. Et encore une fois, c'est toujours les Québécois qui payent. D'en demander plus, considérant les problèmes d'accès dans le réseau, et qui demeure, là, que ce soit le gouvernement de la CAQ, le gouvernement libéral, le gouvernement péquiste, les problèmes d'accès ont toujours été là. Et là, ce que les médecins disent, c'est que ça n'a pas de maudit bon sens de rentrer des indicateurs de performance, alors qu'eux-mêmes, ils disent, mais là, on n'est pas les seuls à être responsables de la performance du réseau. Tu sais, il y a d'autres capables de faire comme il faut notre travail. Et donc, ça, c'est ce que l'un et l'autre côté veulent.
Exactement. Maintenant, quelle est la situation? Puis, tu m'as parlé aussi d'entrée de jeu d'une étude du HEC. Qu'est-ce que ça dit de ce côté-là aussi? T'sais, parce que moi, je cherche toujours à savoir qui est le bon et qui est le méchant dans cette histoire-là. Y en a-tu un?
Bien, je pense pas qu'il y en a un. T'sais, la vérité, entre toi et moi, Jeff, c'est qu'au niveau des communications, tu as deux bords qui ont deux messages complètement distincts, puis tu assistes à une guerre entre les deux, comme je disais, une genre de partie de tennis. Puis nous autres, on essaie de voir, OK, là, mais c'est quoi la vérité dans tout ça? Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Toi, tu n'es pas un spécialiste de ça. Mais le HEC, bon, une université réputée au Québec, une entité indépendante qui ne prend pas parti ni pour les médecins, ni pour le gouvernement, on fait une étude. Mai 2025, c'est très récent, sur justement la rémunération des médecins et l'offre de services médicaux au Québec qui couvre au final de 2010 à 2022.
Fait qu'une étude très exhaustive, là.
Très exhaustive, très récente. Et quels sont les constats de cette étude? Eh bien, de 2010 à 2022, les salaires des médecins de famille ont augmenté de 63 % et de 65 % pour les spécialistes. Alors, quand les médecins disent « on n'est pas, on est les moins bien rémunérés au Canada », ce n'est pas vrai. Les médecins de famille québécois sont les mieux rémunérés au Canada lorsqu'ajustés au coût de la vie. Et les spécialistes, de leur côté, ben, ils sont dans la moyenne canadienne. Alors, ce n'est pas vrai que les médecins sont moins bien payés au Québec qu'ailleurs. Maintenant, le nombre de médecins par habitant au Québec a augmenté de façon considérable. Depuis 2014, on a plus 15 % de spécialistes, de médecins spécialistes, et plus 19 % de médecins de famille. Donc, le nombre de médecins augmente, mais quand tu regardes le nombre d'heures que ces médecins-là travaillent, ça n'augmente pas. Donc, sur la même période, il y a plus de médecins, mais il n'y a pas plus d'heures travaillées.
Alors, c'est pour ça que Christian Dubé dit que les médecins ne travaillent pas assez fort, dans le fond.
Bien, en tout cas, c'est ce que l'étude du HEC, comme je te dis, moi, je fais juste dresser un portrait le plus objectif possible de la situation, puis les gens se feront une tête à partir de ça. Mais effectivement, ça vient de constats qui sont reflétés dans cette étude-là. Donc, sur cette période...
Lambert, peut-être une mini-parenthèse. Dans l'étude, on voit-tu... Tu vas comprendre mon point là, par rapport aux négociations. Un genre de non-égalité du pouvoir dans ces négociations-là. On sent-tu quelqu'un un gros bout du bâton?
Ça ne parle pas vraiment de la négociation en soi. L'étude parle vraiment juste de constats
ouais.
par rapport à la hausse de la rémunération, par rapport à la hausse du nombre d'heures travaillées par les médecins.
Mais quand on regarde ça, par exemple, puis on fait le constat avec ce que le gouvernement demande et autres, on a-tu l'impression que ça va être un petit peu un conflit qui va perdurer parce qu'on n'est pas à égalité, en fait, dans ces négociations-là? Puisque le peuple est vraiment un petit peu la personne qui est emprisonnée là-dedans, là, dans ces négociations-là.
Ce qu'on entend, c'est que le gouvernement ne veut pas reculer. Ce qu'on entend, c'est que pour les médecins, c'est catégorique que si le projet de loi 106 demeure et que la négociation n'est pas faite à la table, bien, on ne bougera pas puis on va continuer les moyens de pression. Et j'ai reçu un document d'un médecin qui m'a été envoyé qui dresse plusieurs autres moyens de pression envisagés par les médecins au courant des prochaines semaines. Et effectivement, Pascal, qui va être le premier touché au-delà des étudiants en médecine? Ce sera les patients québécois. Et donc, cette étude du HEC-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on paye plus cher depuis des années. On a augmenté la rémunération des médecins au point où ils sont dans les mieux payés du Canada. La rémunération des médecins a fortement augmenté, mais l'offre de services médicaux, elle, n'a pas suivi. Alors, le rapport suggère lui-même que la politique, la façon dont on rémunère dont on paye les médecins au Québec doit être revue. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est sur le site du HEC, vous googlez HEC médecin, vous allez trouver cette étude-là.
Alors là, j'imagine que le gouvernement se base sur cette étude-là, justement, pour tenter d'imposer ce nouveau mode de rémunération-là aux médecins.
Bien, en fait, cette étude-là, c'est sûr que pour eux, c'est quelque chose, disons, qui va dans le sens de ce qu'eux demandent. Et comme c'est une institution indépendante qui l'a fait, moi, je pense que ça donne d'autant plus de crédibilité à tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important aujourd'hui d'en parler parce qu'on s'y perd tellement. Quel est le vrai portrait de la situation? Eh bien, cette étude-là le dresse. Et un autre élément que je veux mentionner, qui est impensable pour moi de ne pas parler lorsqu'on parle de négociations concernant la rémunération, la façon dont on paye les médecins au Québec, et je me suis fait lancer des tomates dans le passé pour parler de ça, c'est le statut, les avantages que les médecins ont, les privilèges que les médecins ont, qui leur ont été octroyés depuis les années 70. Les médecins, de tous les employés du réseau de la santé, ce sont les seuls qui ont le statut de travailleur autonome, mais qui ont également les avantages d'un salarié, c'est-à-dire qu'ils ont un seul employeur et Dieu sait qu'ils ne manqueront jamais de patients. Donc, un travailleur autonome, à la base, mes amis, c'est quelqu'un qui doit, tu sais, travailler, aller chercher ses contrats, puis parfois, il y a des périodes d'instabilité parce qu'il y a moins de contrats qui rentrent, puis c'est pour ça qu'il y a certains avantages qui lui sont donnés. Mais un médecin, tu vas toujours avoir des patients à soigner. Il n'en manquera jamais. Et donc, ce statut de travailleur autonome-là, pourquoi c'est un avantage si grand que ça pour les médecins? Bien, c'est d'abord et avant tout au niveau fiscal. Ça leur permet de déduire plusieurs dépenses liées à leur pratique, leur matériel, assurance professionnelle, leur loyer. C'est sûr qu'ils doivent payer après ça pour leur bureau, leurs frais de bureau et tout ça. Mais bon, il y a quand même des avantages où ils peuvent déduire des dépenses. Ils peuvent s'incorporer, donc travailler via une société, un INC, ce qui permet de payer moins d'impôts en reportant une partie des revenus qu'ils gagnent à plus tard. Bref, ils payent moins d'impôts que les autres salariés, même s'ils gagnent plus et en gardent plus dans leur poche.
Lambert.
Donc, si je résume tout ça.
Oui, c'est ça. En terminant, là, si tu nous fais un petit wrap-up là, en 45 secondes, là, gouvernement a raison ou non d'aller de l'avant et de pousser les médecins à la limite?
Mais comme moi, j'ai commencé ma chronique en disant que je ne vais pas dire si le gouvernement a raison ou pas. Je vais dresser un portrait, mais les deux éléments que je viens de mentionner sont importants, selon moi, quand on parle du débat sur la rémunération, au-delà des messages de communication que les deux côtés nous envoient. Ce sont des éléments factuels et je veux que les Québécois qui nous écoutent gardent ça en tête lorsqu'on va justement entendre ces messages de com'-là. Sur la forme, on peut s'obstiner, mais sur le fond, les médecins, par leur simple statut fiscal, ont des avantages qu'aucun autre employé de la santé ont. Ça devait être des avantages temporaires mis en place dans les années 70, qu'aucun gouvernement n'a eu le courage de s'attaquer à ça. Donc, ils ont préserver ça, cet avantage d'être un travailleur autonome. Et également, ce n'est plus vrai, au moment où on se parle, que les médecins québécois sont les moins bien payés au Canada. Pour les médecins de famille, ils sont les mieux payés au Canada et les médecins spécialistes sont dans la moyenne. Et dans la dernière année, ce que cette étude du HEC-là nous montre, c'est que leur rémunération a énormément augmenté, mais l'offre de services médicaux, elle, n'a pas suivi. Et je vous laisse avec ça. Je laisse les gens tirer leurs propres conclusions du portrait que je viens de dresser. Mais ce sera sur mes médias sociaux, cette chronique-là. Désolé si ce n'était pas la plus engageante.
Hey, écoute, ce n'était pas la plus engageante, mais somme toute, très, très, très informative. Puis elle va me servir en crime pour le futur, mon chum.
Exact. Je trouvais ça important là, de partir du début jusqu'à la fin, de dresser un portrait. Puis après ça, ben, les gens se feront une tête sur qui est-ce qu'ils supportent dans cette bataille-là.
Merci beaucoup, Lambert Drainville. On se reparle vendredi, mon ami.
Merci, mes amis.
Salut, à vendredi. Salut. Pascal, après la pause, on embarque dans un dossier très intéressant que tu nous as préparé, c'est-à-dire arnaqueur émotionnel.
Ouais, et je trouve ça super pertinent parce qu'on en a entendu parler depuis des années. Il y a des gens qui ont tout perdu pour en envoyer sur la Côte d'Ivoire et autres. Mais qu'en est-il quand c'est un Québécois qui vraiment entourloupe des femmes une après l'autre en faisant croire que c'est un millionnaire puis qui va donc bien avoir un héritage intéressant, qui passe des paroles aux actions dans l'achat de certaines affaires, mais qui finalement ruine ses, entre parenthèses, blondes, parce que clairement, ils les aimaient pas, on peut comprendre ça. Bon, on en parle avec la journaliste Catherine Lamontagne du bureau d'enquête du Journal de Québec dans quelques instants.
Immédiatement après cette courte pause, on en jase sur les ondes de Boulevard 102.1.